Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée. Moi je suis très content ce soir parce que j'ai vu aujourd'hui un médecin et il m'a remis un peu sur pied, il a remis mes cordes vocales sur pied et surtout il m'a rassuré parce que vous voyez depuis le Covid j'étais persuadé d'avoir quelque chose qui s'était coincé sur mes cordes vocales. Vous savez que plus on vieillit, plus on peut être l'objet de polypes qui viennent se mettre sur les cordes vocales, surtout quand on parle beaucoup, quand on est une pipelette comme moi. Donc tout va bien et le timbre ce soir, eh bien, me plaît assez. J'espère qu'il vous plaît aussi. Je profite du début de cette émission pour embrasser Charlotte. Charlotte qui nous écrit souvent des SMS, qui m'envoie souvent des cartes pour l'anniversaire, pour tout un tas de choses. Et je lui renverrai bien évidemment une carte dédicacée. Nous allons voir ça avec Florian, Charlotte, dans les plus brefs délais. Mais merci pour vos messages, merci pour toutes ces gentillesses, cela me touche beaucoup. Vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1, chers amis, jusqu'à 1h du matin, nous sommes ensemble. Et comme vous le savez, vous pouvez venir me raconter ce que vous traversez. Quoi que vous traversez, vous pouvez ici venir en parler et nous vous écouterons avec toute l'équipe, Florian, Julia qui attendent vos appels au 3921 et puis Laurent Pelé qui est notre réalisateur et qui vous attend aussi. Donc jusqu'à 1h du matin, 3921, 50 centimes d'euros la minute. Vous pouvez nous écrire vos SMS au 73921 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules suivi d'un espace et puis toujours sur notre groupe Facebook Yann Moix, Olivier Delacroix, La Libre Antenne, où vous écrivez à Yann ou à moi en message privé. Et puis vos mails aussi, libreantenne@europe1.fr. Voilà, nous sommes en pleine forme. La vie peut être belle, je dis bien peut être belle, ou en tout cas nous pouvons l'améliorer. Et nous allons essayer de le faire ce soir encore et encore. Votre Libre Antenne du mardi, c'est parti.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Anne-Laure au 3921. Bonsoir Anne-Laure.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Anne-Laure et quel âge avez-vous ?
Eh bien, je viens d'avoir 43 ans et j'habite à Paris, même si je suis née dans le département de l'Ain à Oyonnax.
D'accord. Où exactement dans l'Ain ?
À Oyonnax.
À Oyonnax. Ah ça, je ne connais pas, dites donc. Incroyable.
Et la vallée du plastique, notamment.
Ah oui, d'accord. Non mais je suis pas très bon en géographie, c'est la première fois que j'entends parler d'Oyonnax, donc j'aurais appris quelque chose ce soir. De quoi voulez-vous nous parler, Anne-Laure ?
Eh bien, ce serait pour apporter mon témoignage concernant les fratries dans lesquelles vit ou vivait un enfant handicapé.
Oui. C'est votre cas ?
C'est mon cas. Je suis l'aînée d'une fratrie de trois. Oui. J'ai deux frères qui sont des jumeaux. Mmh. Ils sont nés, j'avais pas encore trois ans et demi lorsqu'ils sont nés. Ils sont nés grands prématurés à six mois et demi. Ils sont restés plusieurs semaines en couveuse. Mmh. Et juste avant ça, lorsqu'ils sont nés, pour le premier, tout s'est bien passé. Et le second a fait une hémorragie cérébrale. Et les conséquences en sont que il faut l'assister pour tous les gestes de la vie quotidienne. Et avant tout, il ne parle pas, il ne marche pas. Il faut le faire manger, le laver, l'assister pour tout.
Oui.
Il ne tient pas son tronc, il faut donc partout, dès qu'il est assis, il faut des sangles pour le maintenir droit. Oui. Mmh. Et il a aussi on dit polyhandicapé, et il a un retard mental qui fait qu'il comprend certaines choses, on a remarqué avec le temps qu'il comprend de plus en plus de choses et qu'il est vraiment à l'affût de, dès qu'il y a un mot qui évoque quelque chose pour lui, il réagit, mais qu'il comprend reste quand même limité.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Vous avez grandi à partir de 3 ans et demi, donc avec ce petit frère. Comment est-ce que vous avez accueilli ce petit frère ?
Alors, comment je l'ai accueilli, je n'ai pas de souvenir vraiment de ce moment-là. Je me souviens d'avoir eu une enfance, enfin le souvenir que j'en ai en tout cas, c'est d'avoir eu une enfance heureuse, avec des parents aimants. Je jouais avec mes deux frères, enfin avec mon autre frère, et puis on associait celui qui est handicapé à nos jeux, enfin à nos, enfin près de nous. Ouais, voilà ce dont je me souviens. Mmh. Et je me souviens aussi des différences ou des premiers questionnements. Je dirais que le souvenir le plus ancien qui me vient, c'est lorsque le soir après dîner, on avait un tapis dans le salon, enfin un tapis pas décoratif, mais un tapis comme on utilise dans les gymnases, et sur lequel mon père faisait ramper mon frère, c'est-à-dire qu'il lui faisait des gestes de kiné pour entretenir ses muscles,
oui.
Et ça prenait un certain temps, et je me souviens que plusieurs fois je m'étais demandé, mais comment ça se passe chez les autres ou dans la maison d'à côté où il n'y a pas d'enfants handicapés, où les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'on fait,
oui,
comment se passe une soirée, j'allais dire, normale. On ne partait pas forcément en vacances, mais avec mon autre frère, on jouait avec ce qu'on avait sous la main, notre imaginaire. On fabriquait ou on inventait des choses. Enfin voilà, plutôt le souvenir d'une enfance heureuse quand même. Mmh. Voilà.
Mais ce frère, par moment, devait polariser l'attention de vos parents. Est-ce que vous avez toujours supporté, bien supporté ça, ou parfois vous arrivait-il de craquer ou de vous dire qu'il y en avait beaucoup pour lui et pas assez pour vous lorsque... Au sein d'une fratrie de jeunes enfants, parfois, on peut assister à ce genre de choses.
Alors, ça a dû arriver, mais vraiment, quand j'étais jeune ou enfant, je m'en souviens pas tellement. C'est plus j'ai des souvenirs un peu plus tardifs, surtout sur la dépendance, enfin, le rythme que ça imposait à la maison,
oui.
À tout le monde. Alors, je ne me souviens pas de l'âge que j'avais pour ces souvenirs-là, mais mon frère, et je parle au passé, mais c'est toujours le cas, fait une sieste l'après-midi et le soir, mes parents le couchaient pour 20 heures. Disons que 20 heures, c'était l'heure à partir de laquelle on devait faire le silence dans la maison, donc marcher à pas de loup, faire attention quand on ouvre ou quand on ferme une porte, baisser... le son de la télé, chuchoter, enfin c'était à partir de 20h, vraiment c'est le silence, pareil, c'était vraiment, et d'ailleurs je me souviens quand, si par malheur le téléphone sonnait après 20h, bon encore 20h15 ça va, mais enfin ça va, mon frère n'était pas encore endormi, mais au moment où il pouvait être endormi, c'est-à-dire peut-être 21h, un peu avant, un peu après, c'était, enfin dans mon esprit c'était, et je pense, bon, je parle pour moi, mais une catastrophe, parce que ça allait le réveiller, il allait falloir trouver une façon de le rendormir, et puis il pouvait aussi, quand il a grandi, être moins conciliant et refuser, enfin manifester son refus qu'on parle au téléphone, qu'on accorde, enfin je dis on, oui, qu'on accorde notre attention à quelqu'un au téléphone. Il se mettait à crier ou à... Parce qu'il ne parlait pas, il ne parle toujours pas. Il pouvait juste dire un mot qui était non. C'est le seul mot qu'il continue à dire quand il n'est pas content.
Oui.
Et donc, le téléphone, c'était un peu la hantise enfin, l'une de mes hantises. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que même une fois adulte et vivant seule et loin de Yona, j'avais beaucoup de mal à appeler des gens après 20h30, 21h, comme si, enfin, j'avais vraiment gardé cette trace, cette habitude, et même si là où j'allais appeler, il n'y avait pas de souci d'enfants qui risquaient d'être réveillés, de ne pas pouvoir se rendormir, qui ne comprend pas tout, voilà, je gardais cette habitude. Ça va mieux maintenant, beaucoup mieux, mais pour dire que ça suit pendant des années, ce genre d'habitude et de pli.
Vous avez écrit un livre, et donc je vais citer quelques-unes des réflexions que vous avez eues avec Julia. Vous lui avez dit que c'est à l'extérieur que vous avez pris conscience du regard des autres et du poids du regard des autres, visiblement. Vous pouvez m'en parler ?
Oui. Je me souviens pas de l'âge que j'avais, mais je me souviens d'un jour, on était dans une rue avec ma mère et mes deux frères. À l'époque, mon frère handicapé n'était pas dans un fauteuil roulant, mais une poussette rouge. Alors déjà, le rouge qui attire le regard, mais une poussette vraiment particulière. On se dit, il y a quelque chose qui va, enfin, quelque chose d'inhabituel. Et je me souviens, on était dans la rue, donc on marchait, voilà. Et je me rappelle le visage de quelqu'un qu'on a croisé, qui d'abord a regardé mon frère, puisque je dirais c'est comme un réflexe, enfin oui, bon. Et qui ensuite nous a regardé nous, et j'ai senti, enfin je me souviens toujours de ce moment-là, je ne saurais pas dire si c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu comme honte ou que ça m'a été plus insupportable que toutes les autres fois d'attirer l'attention, de me démarquer des autres, d'être repérée comme ça dans la rue parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas, entre guillemets, normal. Et ça aussi, c'est une chose qui m'a, je veux dire, poursuivie, qui est restée imprimée en moi longtemps. Et contre laquelle je lutte même encore aujourd'hui. Cette habitude de se dire si on me regarde un tout petit peu trop ou je vais peut-être je vais me dire il y a quelque chose qui ne va pas ou
ça a développé chez vous peut-être une sorte de paranoïa, hein, même si c'est pas tout à fait ça, mais un peu quand même, peut-être le fait que d'un seul coup, si on vous regarde un peu trop, vous le remarquez plus facilement que quelqu'un qui n'a pas vécu ce que vous avez vécu dans le passé. On va continuer à parler avec vous, Anne, de tout ça, Anne-Laure. On marque une petite pause et on revient tout de suite, d'accord ?
D'accord.
À tout de suite.
Matmut agit pour votre retraite.
Retraite, la grande incertitude des Français.
Ah bah oui, difficile de se projeter. On sait pas vraiment quand, comment, ni même combien.
Justement, c'est le moment d'y songer. À la Matmut, tu peux te constituer une épargne retraite à partir de 50 euros par mois, avec un conseiller pour t'accompagner et t'aider dans ton projet.
Bon, on va pouvoir avoir la retraite qu'on veut alors.
Matmut s'engage pour une meilleure retraite pour tous à partir de 50 euros par mois. Rendez-vous sur matmut.fr. Versement programmé à partir de 50 euros ou versement libre à partir de 500 euros. Contrat d'assurance vie, conditions complètes et coordonnées de l'assureur en agence et sur matmut.fr.
Entrez dans l'univers étrange et sublime du peintre britannique virtuose Johann Heinrich Füssli. Précurseur du romantisme noir, il livre une œuvre onirique peuplée de récits mythologiques où se mêlent beauté des rêves et drames de l'enfer. Füssli, entre rêves et fantastiques, une exposition à découvrir en ce moment au musée Jacques Marandry à Paris. Avec Europe 1.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
23h24 sur Europe 1, et vous pouvez bien évidemment continuer à appeler le 3921 et peut-être nous échangerons ensemble tout à l'heure. Anne-Laure, vous évoquez ce regard sur les autres, le regard que les autres portaient sur vous, qui vous a impacté encore aujourd'hui en tant qu'adulte en fait.
Oui, je dirais que c'est une sorte de surinterprétation de de petites choses qui sont insignifiantes ou sur lesquelles je ne devrais pas m'attarder ou oui, qui vraiment ne valent pas la peine de s'attarder. Mais il y a aussi le rôle de l'anxiété, parce que bon, certes, il y a aussi dans l'anxiété des facteurs génétique, si je ne me trompe pas, mais aussi un conditionnement, et il y a différentes choses qui ont pu se passer qui alimentent ou entretiennent l'anxiété et qui se manifestent, ou cette anxiété qui se manifeste dans toutes sortes de situations.
Lorsque on est dans une fratrie comme ça avec un petit frère, une petite sœur ou un grand frère, hein, ou une grande sœur handicapée assez lourdement, comme votre frère l'était, est-ce que on ne grandit pas plus vite que les autres ?
Si, je pense que si. Et pas toujours, oui, je pense que oui, et à tel point que parfois on ne se sent pas toujours... on se sent un peu décalé quand j'étais peut-être au collège ou même avant, mes parents faisaient des tas de démarches pour chercher une façon d'être allégé, oui, même pour l'éveil et pour aider à grandir mon frère handicapé, réussir à trouver une structure qui pourrait l'accueillir au moins certaines demi-journées par semaine au minimum. Et donc, c'est assister à des tas de conversations, d'appels, de démarches à faire, de refus, de situations parfois ubuesques auxquelles on ne serait pas confronté à cet âge, à un âge habituel.
Oui.
C'est aussi voir des choses qu'on n'est pas censé voir, auxquelles on n'est pas censé assister jeune. Donc mon frère, je disais, on doit lui donner à manger à la petite cuillère, on découpe son alimentation en tout petits morceaux, il ne boit plus d'eau à cause des fausses routes, mais de l'eau gélifiée, ce qui limite les fausses routes alimentaires.
Oui, oui.
Et je me souviens qu'il y a très longtemps, quand je vivais encore chez mes parents, il est arrivé plusieurs fois que mon frère fasse une fausse route, c'est-à-dire qu'il mange et qu'il avale de travers, soit parce que quelque chose le réjouit beaucoup, il rigole et du coup il n'avale pas correctement, soit parce qu'il y a une fausse route dans sa manière de déglutir. Et là, c'est, je vois, et mon autre frère, on voit notre frère et mes parents qui est en train de s'étouffer. Donc, mes parents se jettent sur lui, défont les sangles, le renversent, mettent la main dans la bouche pour retirer ce qui est coincé. Enfin, et ça
c'est
marque.
Choquant.
C'est choquant. Je dis ça avec le sourire, mais c'est pas du tout drôle. Mais ça marque. Et je me souviens aussi d'une fois où j'étais étudiante. Donc, j'y vais à Lyon, j'étais rentrée un samedi matin de Lyon et mon frère avait entendu que j'étais de retour, il avait entendu la voiture et il était très content et tellement content qu'il a avalé de travers, fait une fausse route. Et mon autre frère était là, donc il est venu aider ma mère à retirer les sangles, etc. Et j'étais dans l'encadrement de la porte et je me souviens très bien que je suis restée immobile, je n'ai rien pu faire. Et après, mon autre frère m'a reproché, il m'a dit « Ah, mais toi, t'es restée, t'as rien fait », mais je ne pouvais rien faire.
Oui.
Et c'était entre la sidération et peut-être aussi le fait de me dire « Ben, ça ne sert à rien parce que cette fois, ça va être la bonne ». Enfin, c'est assez monstrueux de dire ça, mais c'est ce que j'ai ressenti.
On va rester sur ce point-là et faire une nouvelle pause. On va parler justement de ce ressenti-là, parce que j'ai souvent échangé avec des parents, surtout des frères et sœurs d'enfants handicapés. Et il y a je ne trouve pas le mot. En tout cas, ce sentiment-là qui vient et qui assaille un peu... sans qu'on veuille vraiment, mais on peut éprouver certaines un certain ressenti comme celui-ci, mais on marque une pause, je vais trouver les mots exacts, pardonnez-moi. À tout de suite.
Moi, dès que je suis chez moi, je fais des économies d'énergie. Comment ? Facile, je règle mon chauffage à 19 degrés maximum.
Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Je baisse, j'éteins, je décale. Chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement.
Surfez en toute sécurité avec NordVPN. Bloquez les trackers en ligne, masquez votre emplacement virtuel et protégez votre appareil contre les fichiers malveillants durant vos téléchargements. C'est simple, connectez-vous et n'y pensez plus. Profitez de l'offre du Black Friday pour un abonnement d'un ou de deux ans sur NordVPN.com et recevez 3 mois gratuits. NordVPN, votre cybersécurité au quotidien.
La libre antenne d'Europe 1. Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot « nuit », suivi de votre message au 7 39 21.
75 centimes plus coût du SMS.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin sur Europe 1, chers amis, donc n'hésitez pas à composer le 39 21. Alors, ce sentiment-là de se dire « ce coup-ci, c'est peut-être la bonne », est-ce que vous vous êtes pris à espérer ça à un moment ou un autre ?
Oui, et pendant très très longtemps, je pensais que à cause de ça, j'étais un monstre et que j'étais la seule. Enfin, et je portais ça sur moi, moi seule, sans l'avoir dit à personne. En fait, j'étais au collège ou peut-être oui au collège et j'étais sur la pelouse autour de la maison. Mon frère handicapé était couché sur une couverture et ma mère m'avait chargée de garder un œil sur lui parce que comme les tout petits enfants, dès qu'il peut prendre un objet ou porter quelque chose à sa bouche, il le fait, que ce soit une feuille de salade au supermarché ou les feuilles d'un arbre. Bon. Donc elle m'avait dit de garder un œil sur lui et je devais être en train de lire et j'ai dû délaisser, ne pas le regarder pendant quelques un petit moment, enfin pas très longtemps, et il se trouve qu'au moment où ma mère est revenue, mon frère avait une poignée d'herbe dans la bouche. C'est-à-dire qu'il avait dû attraper une poignée d'herbe et la porter à la bouche comme il fait avec beaucoup de tout ce qu'il peut attraper.
Ouais.
Et ma mère lui a retiré l'herbe, voilà. Et je me suis dit, après coup et plusieurs fois ensuite, mais si elle n'était pas arrivée, peut-être qu'il serait vraiment étouffé et peut-être même que j'ai fait exprès de ne pas le regarder pour qu'il s'étouffe. Après, c'est la mémoire, c'est les faux souvenirs. Je ne peux pas dire ce que j'ai vraiment fait volontairement ou involontairement à cette époque.
Est-ce que vous avez dû travailler là-dessus ? Est-ce que vous avez dû évacuer la culpabilité d'être envahi de ce type de réflexion, de sentiment, est-ce qu'il a fallu vous délester de ça et en parler à un psy, par exemple ?
Oui, alors il se trouve que la première personne à qui j'en ai parlé n'était pas un psychiatre ou psychologue, mais un thérapeute, et j'avais plus de 30 ans, et le simple fait de réussir à formuler cette envie que j'avais eue, et peut-être que j'avais encore à l'époque, était déjà un énorme pas pour moi. Bon, et puis, je crois qu'on n'a pas trop travaillé là-dessus, finalement, enfin, mais au moins avoir pu le partager avec quelqu'un. Et bien plus tard, je ne sais pas combien d'années après, peut-être pas tout à fait 10 ans après, mais j'ai pu en parler à un psychiatre. Et là, ça a été une forme de révélation, puisqu'il m'a dit que dans une situation comme celle-là, quand il y a plusieurs enfants, dont un est handicapé, il est normal, il est légitime qu'un frère ou qu'une sœur souhaite que son frère ou sa sœur handicapée meure. Et alors, c'était pour moi un soulagement immense, parce que pendant toutes ces années, je considérais que j'étais un monstre, que j'étais une sœur indigne, que... Enfin, tout ça parce que j'aurais voulu que mon frère ne soit plus là, tellement parfois c'était trop insupportable. Et là, on me révélait que c'était normal et surtout légitime. Et c'était un grand pas fait pour moi.
Oui, je me doute. En tant qu'adulte aujourd'hui, en ayant traversé les années, aux côtés d'abord de votre frère handicapé, puis ensuite... éloigné, mais toujours relié par la pensée, par l'amour que vous lui portez. Est-ce que vous vous êtes rendu compte d'un enrichissement, de quelque chose en plus que vous aviez appris, dont vous vous étiez enrichi, grâce justement à ce frère ?
Il y a certainement pas mal de choses. Probablement, enfin bon, après c'est difficile de faire la part des choses entre la nature de chacun et ce qu'on apprend de, ce qu'on tire de l'expérience de l'environnement, mais je pense dire une forme d'attention aux petites choses, enfin aux petites choses, à la délicate, enfin comment dire, aux précautions à prendre pour sur certains sujets ou sur la manière d'aborder certaines choses délicates, enfin de d'avoir des précautions. Alors je n'ai pas d'exemple très précis, mais oui, une forme de pudeur. Alors plutôt ce serait pudeur sur pour parler de certaines choses, même avec des personnes, ne pas oser trop les mettre mal à l'aise.
Les brusquer.
Voilà. Aussi, le fait que cette expérience m'a permis de faire de très belles... Oui, de belles rencontres, et je parle pour moi, mais certainement aussi pour mes parents qui, alors après avoir écrit le livre, j'ai eu des retours de gens que je ne connaissais pas qui m'ont écrit, et notamment soit de parents, soit de frères, soit ou de sœurs, dans le même cas que moi, et ça a été l'occasion de rencontrer quelques personnes, notamment une personne qui s'appelle Christelle qui vient justement de perdre son frère handicapé il y a quelques jours. Et on s'est rencontrés il y a un an. On ne s'était jamais rencontrés avant et c'est comme si on se connaissait depuis très longtemps parce qu'on partageait ce vécu. Et c'est un enrichissement sur ce vécu, mais enfin un enrichissement personnel. Ce sont des richesses que cette expérience, malgré tout, a apportées. De même, quand j'ai rencontré ou j'ai lu des messages d'amis de mes parents ou de voisins ou de simples connaissances qui ne connaissent pas mes parents, qui ont dit admirer l'énergie qu'ils ont déployée, le courage... Les inventions, les fabrications de mon père pour aménager la maison, pour cet enfant, enfin, des choses très, j'allais dire, infimes ou minuscules, mais qui sont très importantes,
oui.
qui enrichissent. Mmh. Et...
qui vous ont peut-être donné aussi la notion, oui. en voyant vos parents se dévouer, puiser une énergie immense pour s'occuper chaque seconde, chaque minute, 7 jours sur 7 de cet enfant. Peut-être vous ont donné la clé pour la porte, la clé ou la porte d'entrée, je ne sais plus comment on dit, mais pour justement voir combien cette dimension-là pouvait vous montrer que la vie pour certains pouvait être vraiment très compliquée et pour d'autres beaucoup plus douce. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, tout à fait. Et de savourer, enfin, ça va être un peu banal ce que je dis, mais de savoir apprécier
la simplicité des choses.
La simplicité, et que quand il n'y a pas de préoccupation grave à l'esprit, qu'on peut passer, on peut tout simplement se dire, ah ben là, j'ai envie d'aller voir une expo, j'y vais. Et bien que déjà, ça, c'est une chance, parce que une fois que mes parents étaient à la retraite, et que mon frère n'était plus à la maison 7 jours sur 7, mais pris en charge dans une maison d'accueil spécialisée, il le ramène une fois tous les 15 jours. Au début, il n'avait même pas à l'esprit, donc ils étaient tous les deux à la maison, il n'avait même pas le réflexe ou l'idée de se dire, on est libre, on peut sortir, faire une exposition, quoi que ce soit, tellement c'était ancré dans leur esprit. Donc, c'est savoir apprendre aussi, que, enfin, ne pas oublier que les choses les plus simples ne sont pas offertes à tout le monde. Et parfois, on ne se doute pas du tout de tout ce que cette situation recouvre à l'intérieur des murs d'une maison.
Si vous voulez en savoir plus, vous qui nous écoutez, vraiment, je vous engage à en connaître plus sur l'expérience, le ressenti, l'enrichissement d'Anne-Laure. Anne-Laure a écrit un livre qui s'appelle « Sœur sans bruit, grandir auprès d'un frère différent » aux éditions du Rouergue. Vous pouvez... Donc, acheter ce livre, vous le trouvez facilement, hein, à Nord, sur Internet.
Oui. Puis, il y a aussi des podcasts que j'avais fabriqués avec trois petits podcasts de 1 minute, 1 minute 30 avec des sons que ma mère avait enregistrés quand on était enfant, parce que, justement, pour contribuer à l'éveil de mon frère, une psychomotricienne avait dit que ça pourrait être bien d'enregistrer des sons familiers et de les faire écouter à mon frère. Et quand on lui dit encore aujourd'hui... que tu veux écouter la cassette des bruits, il a un très grand sourire parce que ça lui évoque des tas de souvenirs et de choses qu'il comprend. Donc,
et on peut trouver ces podcasts où ?
Ils sont sur YouTube, Vimeo, en faisant Sœur sans bruit, podcast, on les trouve.
Sœur sans bruit, d'accord, podcast. Merci mille fois, Anne-Laure, pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, écoutez, bon vent. Hein, pour cette vie, et merci, merci pour votre intervention, vraiment.
Merci à vous.
Au revoir, Anne-Laure.
Au revoir.